Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, voilà, on y est, c'est bon, c'est tout beau.
Ça y est, nous sommes là, c'est le Canu Info du lundi 5 décembre, il est 19h04 et on va vous parler d'abord à l'international de plusieurs choses.
Alors à l'international, on commencera par parler des mobilisations contre Bolloré qui ont lieu au Cameroun avant d'aller en Iran où la lutte paie.
Et puis on continuera au national avec un sujet sur les travailleurs et travailleuses d'Orano qui bloquent les ronds-points. Et on lira un communiqué d'une action contre Carrefour à son siège. Et puis on parlera aussi de la répression coloniale à Mayotte et en Guyane.
Et enfin, au local, on verra que la métropole casse la grève des nettoyeurs de Perrache.
Mais tout de suite,
on commence tout de suite avec
le point des grèves, l'actu des grèves.
Après plus de 6 semaines de grève, 8 salariés auxiliaires de vie et assistantes ménagères de l'agence d'aide à domicile Domidom de Caen ont obtenu de la direction toutes leurs revendications, notamment sur les hausses des salaires. Elles passent donc de 1300 euros net à 1470 euros net par mois et leurs indemnités kilométriques augmentent de 14 centimes, passant de 31 à 45 centimes du kilomètre. Elles ont aussi obtenu la prise en charge patronale d'une assurance prévoyance à hauteur de 50% et la mise en place d'un panier repas à partir de mars 2023. C'est donc les salariés de l'agence Cannes de Domidom, filiale du groupe Orpea, qui remporte une victoire pour elle, mais cette victoire s'étend aussi aux 895 autres aides à domicile de Domidom en France. Big up donc, la lutte paie et ça fait plaisir dans ce secteur rarement en grève avec une implantation syndicale assez faible et des salariés bien isolés sur le terrain.
Bien wesh les Cannes.
Et c'est du côté de Sanofi aussi que la grève continue depuis le 14 novembre, donc depuis un bail. Et oui, les salariés du groupe pharmaceutique sont toujours en grève. C'est un mouvement très suivi avec près de 3000 grévistes répartis sur 7 sites mobilisés, sur 28 sites en tout. C'est quand même pas mal. Leurs revendications sont claires, augmentation de 500 euros pour tous et toutes et 10% d'augmentation indexée sur l'inflation. Pour tous les grévistes, une chose est sûre, jamais pareille mobilisation n'avait été vue chez Sanofi à l'échelle nationale. La direction, elle, de son côté, fait la sourde oreille, pas étonnant. Elle ne veut pas dépasser les 4% d'augmentation proposée à l'issue des négociations annuelles obligatoires. Courage à eux et à elles.
Et puis on continue, puisque les grèves contre l'inflation, il y en a encore et toujours, comme à Leclerc, où les syndicats CGT et même la CFDT, c'est dire le niveau de la colère, ont appelé à la grève depuis vendredi pour une hausse de salaire de 10%, une fois n'est pas coutume, mais aussi pour des recrutements massifs en CDI. Alors, dans ta gueule, Michel-Édouard Leclerc, patron qui fait bien souvent le malin dans les médias en feintant d'être l'ami du pouvoir d'achat. Quand on voit les payes et les conditions des quelques 133 000, les conditions de travail des quelques 133 000 travailleurs et travailleuses de Leclerc, on comprend pourquoi ils font grève. Pour rappel, Leclerc, c'est l'enseigne la plus rentable de la grande distribution française et la répression syndicale y est quotidienne. Soutien aux grévistes de Leclerc et faites-lui mal.
Et on continue avec les brèves un peu plus classiques. On vous a parlé la semaine dernière d'une belle manifestation pour le droit au logement qui était organisée ce samedi 3 décembre par le DAL 69 et la Guillotière n'est pas à vendre. C'était une belle manif qui s'est finie par une belle réquisition d'une maison vide située au 110 avenue Berthelot à Lyon 7e. Pour l'instant, cette réquisition se passe bien et tient. Et donc, il y a un appel à soutien à passer là-bas et aussi un appel aux dons, donc à ramener des choses là-bas dont les habitants et habitantes auront besoin, à savoir des matelas, des couvertures, des chauffages électriques, des plaques électriques, des ustensiles de cuisine, casseroles, poêles, assiettes, couverts, des frigos, des machines à laver, des tables, des chaises, des balais, serpillères, seaux, pelles, balayettes, des produits de nettoyage et éponges. Et puis de la nourriture, riz, pâtes, pommes de terre, tout ce qui se conserve assez bien. Vous pouvez passer déposer les dons directement sur place, c'est donc au 110 avenue Berthelot à Lyon 7e, ou écrire un petit message en message privé sur le Facebook du DAL 69.
Et puis on va vous reparler, une fois n'est pas coutume, de Gaël Quirante, hein, vous savez, ce militant syndicaliste de lutte, une des figures de Sud PTT 92 et de la très glorieuse mais néanmoins très réprimée grève des postiers du 9-2 en 2018-2019, conflit qui avait duré 15 mois. Alors la direction de La Poste, représentée par son très libéral PDG Philippe Val, s'acharne sur Gaël Quirante depuis... qui n'en était pas à son premier procès. Il a été condamné une première fois en 2019 en première instance, honteusement d'ailleurs. Relaxé le 25 novembre dernier pour d'autres faits de grève, il a à nouveau été relaxé ce lundi, ce matin. Et ça, ça fait plaisir. Alors à chaque fois, ce sont des membres de la direction, des cadres de l'entreprise qui tentent de le faire tomber. Mais la mobilisation et la solidarité ont été très fortes derrière Gaël Quirante. Et cela l'a encore fait gagner et on en est bien content.
Et on passe tout de suite à notre prochaine rubrique, c'est-à-dire à...
International.
Avec un premier sujet sur ce qui est en train de se passer au Cameroun.
Oui, c'est un nouvel épisode dans la longue histoire de la France-Afrique sur une affaire qui date de plusieurs années et qui oppose maintenant 145 cultivateurs camerounais à l'entreprise Socapalm, filiale camerounaise de Socfin, qui entretient des liens étroits avec le groupe Bolloré et qui a installé des plantations de palmiers à l'huile sur les terres donc, de ces 145 cultivateurs. Jeudi 1er décembre, la cour d'appel de Versailles leur a offert leur première victoire judiciaire à ces cultivateurs qui se mobilisent contre les plantations de palmiers à huile. L'accès à des documents internes de Socfin et Socapalm qui visent à prouver que Socapalm est en fait une filiale directe du groupe Bolloré. L'accès à ces documents leur était jusque-là refusé. Le tribunal de Nanterre avait estimé en première instance que les demandeurs n'apportaient pas d'éléments qui pouvaient faire présumer l'existence d'un contrôle direct ou indirect de la société Bolloré. En appel, Socfin et la Socpalm ont été condamnés à transmettre les procès-verbaux de leurs 4 dernières assemblées générales et à payer 2 000 € par jour de retard. Donc on espère que ça va les pousser à fournir ces fameux documents. Ces fameux documents devraient permettre d'établir un peu mieux le lien entre ces deux entreprises et le groupe Bolloré. Et ça permettrait ensuite aux cultivateurs d'obtenir que le groupe français soit tenu responsable des nombreux préjudices qu'ils estiment subir du fait des activités de la plantation sur leurs terres, de la pollution, des terres laissées à l'abandon et un envahissement de leurs sépultures ancestrales. Depuis des années, le groupe Bolloré prétend ne pas être mêlé à la gestion de ces plantations, indique qu'il ne détient que 38% de Socfin. Sur le papier, c'est bien le dirigeant de la Socfin, Hubert Fabry, qui a la main sur les palmiers à l'huile, depuis qu'il s'est partagé avec Vincent Bolloré les restes de l'ex-groupe colonial Rivaux, dont Bolloré a pris le contrôle en septembre 1996. Mais en réalité, les deux hommes entretiennent toujours des rapports étroits. Fabry siège dans différentes instances du groupe Bolloré depuis 1987, et Bolloré demeure aux côtés d'un second représentant de son groupe, l'un des 6 membres du conseil d'administration de la Socfin, qui comprend aussi Hubert Fabry et son fils. Il y a aussi le fait que les résultats financiers de la Socfin et de la Socapalm sont intégrés à ceux du groupe Bolloré dans ses présentations officielles. Ça fait quand même pas mal d'indices pour dire que Bolloré exerce un contrôle sur l'entreprise Socfin, et c'est d'ailleurs ça qui a finalement décidé la cour d'appel à autoriser l'accès aux documents de Socfin. Cette cour d'appel a aussi embrayé en disant direct que les activités de la Socapalm sont susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux des cultivateurs et notamment à leur droit à un environnement sain, en s'appuyant sur les relevés démontrant la pollution des rivières qui desservent à la fois les palmeraies et les villages. Le sujet de ces plantations est particulièrement sensible pour Vincent Bolloré et son entourage, au point de multiplier les procès en diffamation sur le sujet et de mener des poursuites bâillons destinées à faire taire ses adversaires qui parlent un peu trop de ce thème. Exemple parmi d'autres, il y a la Socapalm et la Socfin, qui ont poursuivi Mediapart ainsi que 2 ONG, mais ils ont perdu leur procès en février 2019. On souhaite donc bien du courage aux agriculteurs camerounais dans leur combat écologique et anti-impérialiste contre Bolloré.
Et puis en Iran, et ça fait plaisir car c'est pas souvent, la lutte paye.
Tout à fait, ça fait bientôt 3 mois que la révolte gronde en Iran. Pour rappel, c'était le 16 septembre 2022, la police des mœurs de Téhéran avait assassiné Mahsa Amini, une femme kurde de 22 ans, car elle ne portait pas le hijab comme l'exige l'État iranien. En réponse, des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes prennent la rue, affrontent la police et enclenchent ce qui ressemble fort à un processus révolutionnaire. Des milliers donc d'Iraniens et d'Iraniennes se sont organisés au rythme du mot d'ordre « femme, vie, liberté ». Après 3 mois de contestation, donc, enfin, une victoire. Le procureur général d'Iran annonce l'abolition de la police des mœurs par les autorités. Des changements concernant le port du voile ont même été évoqués samedi, le procureur expliquant que le Parlement travaille sur la question. À voir. Le voile, pour rappel, était devenu obligatoire en Iran 4 ans après la révolution islamique de 1979. C'est donc une victoire non négligeable, mais pas non plus suffisante, comme le rappelle le mouvement avec l'incendie de la maison et la voiture d'un juge pénal jeudi dernier à Mahsa. Cette révolte en cours ne sort évidemment pas de nulle part, elle est l'aboutissement de 5 années de lutte intense, ponctuée à la fois par des mouvements émeutiers et des mobilisations de travailleurs et de travailleuses, notamment chez les enseignants et les syndicats des transports. Il y avait eu 2009 avec un mouvement, le mouvement vert, qui était lui mené par la classe moyenne. Il y a eu décembre 2017, janvier 2018, avec des millions de travailleurs qui se sont rebellés contre l'oligarchie au pouvoir. Puis 2019 avec un mouvement, cette fois-ci populaire, contre la hausse du prix du carburant, avait enflammé le pays. Et il y avait eu des centaines d'incendies de commissariats, d'écoles religieuses, de bâtiments administratifs. On en avait longuement parlé ici. Mais cette fois-ci, le mouvement actuel, à la différence des précédents, n'est pas seulement dirigé contre la misère économique engendrée par le néolibéralisme autoritaire de ces 30 dernières années. Il est aussi dirigé contre l'oligarchie patriarcale au pouvoir. La contestation a dès le début pris une coloration nettement féministe avec les différents incendies de hijab, mais également une dimension ethnique particulière, notamment à travers la combativité exemplaire des Kurdes en Iran. Bref, la suppression de la police des mœurs, certes, est une défaite incontestable du régime ultra-conservateur d'Ebrahim Raisi. Mais cette mesure reste symbolique et loin des revendications actuelles qui visent la structure même du régime islamiste. Face au mouvement, la répression, elle, continue à être sanglante. Il y a des centaines de morts et des milliers d'arrestations dans les prisons. On détient, on torture, on viole, mais aussi on juge, parfois le jour même de l'interpellation, souvent à huis clos, sans l'assistance d'avocats ou de témoins. Bref, le mouvement n'est pas fini. On souhaite ici courage au peuple iranien.
Et puis on va vous faire une première petite pause musicale, dont tu vas nous parler également.
Une première pause musicale avec une rappeuse du coup iranienne qui s'appelle Tarin et qui nous propose un petit freestyle.
بازی گرنم به پیل فرصت که رچن از بغل تو بشن پر رنگ کم به سختی ها میشم مثل گرگم لبر چون عجیت داره جورت به ترس نمیگیره چه کسی شانسی جام اومدم قوی تر ازم میشه من جان سینو تور کلمه آسم تر از سال بیا سینا فقط بلدم بگیرم مثل بار بیا رخ نه فیکا نمیشن عمرن صد درم هی بالا میره سورت تخت باز بیش کلم مثل قلدک مانه های گنده رو اضافی ها کلن سر صدا مسیرم ایدئال پس چک بش راه نمیدم ایتر کارو تک تک بشمار عجیب خواستم میشه پر ایدنا و نوزم آما طوری که میشی تو شطرنج ایماد کلم و جلو منم افتاده چی در دست بود میزنم مثل دوستای پیرن به قافی ها می نویسه خودکار بی تر حرفای منو که تو صبح پای بیتم وقتش دیگه روشن کنم تکلیف اونایی که دورم پرن دم میزنم میام سورت کمک رو تو شرایط سختم به فورن گمن هنوزم بگه کی نره کی ماد دست جنسیت می کنه مخل سیاختر فرق داریم تنه میدم آش دست سر می کنه که نشه آجمز من هنوزم برمیام اب پس آدم های عدم بیمار پیگیرا نمیدونم اصلا چی کار با رب داره نفته خو مخص تحتیلات بهم نگو شده گنگم زیاد ارزش داره هنوم باسم عدب بیات رب نوه نیست که فرهنگ میاد در موضوع جان یه ترفن میخواد قلبن میخوام همشو عدن سیف سای سیارافی تی ام سی و جمن هیپ هاپ طرز فکره ولی هرچند اینا رو خب درک میکنه یه نفر از هر بیستا.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 5 décembre, il est 19h17 et vous venez d'écouter la rappeuse iranienne Tarin avec son freestyle. On passe tout de suite au...
National. Et au National, on commence par les travailleurs et travailleuses d'Orano.
Absolument, avec ce lundi, des salariés d'Orano, donc anciennement Areva, qui menaient une journée d'action à l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague. Alors le mouvement a commencé à 4h du matin quand environ 200 salariés ont bloqué des ronds-points sur des routes menant vers l'usine nucléaire. Ils ont donc repris une tactique bien connue en France depuis novembre 2018, à la différence que l'objectif n'était pas d'obtenir la démission d'Emmanuel Macron, mais simplement des augmentations de salaire. C'est à l'appel de l'intersyndicale, donc CFE, CGC, FO, CFDT, CGT et Sud, que les salariés ont été appelés à rejoindre ce matin un mouvement touchant une première entreprise du groupe qui était Orano DS et dont les syndicats réclamaient aussi des hausses de salaire. La direction d'Orano DS avait fait une première proposition indécente avec des hausses de salaire de seulement 2,4%. La direction d'Orano Recyclage, quant à elle, avait proposé 4,3%. Et le syndicat Sud a estimé qu'il s'agissait là de deux propositions visant à semer la zizanie entre les salariés du groupe. En effet, parce que les hausses avancées par les deux directions visaient à fragmenter les revendications entre les salariés des diverses entreprises du même groupe. Alors le mouvement de grève a bien impacté la production ce lundi. Une nouvelle réunion avec la direction aura lieu demain mardi sur les salaires à Orano Recyclage. Et donc on leur souhaite une bonne chance et de joyeux blocages sur les ronds-points.
Et puis s'il y a un groupe qui cette fois lui ne devrait pas être recyclé, c'est sans doute Carrefour. Wow.
Oui, tout au long de la semaine dernière, il y a eu des actions de soutien aux deux personnes qui sont actuellement poursuivies par le groupe Carrefour pour avoir participé à des opérations d'autoréduction, dont une occupation qui a eu lieu vendredi 2 décembre dernier. Je vais vous lire le communiqué des occupants et occupantes. Nous, étudiantes et étudiants, chômeuses et chômeurs, travailleuses et travailleurs et individus en lutte contre la précarité, occupons en ce moment le siège de l'AFEP, Association française des entreprises privées, club très sélect et surtout très confidentiel du grand patronat français. Nous pensions y trouver Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, que nous cherchons désespérément depuis des mois. Encore loupé. Nous négocions actuellement avec le personnel pour établir un contact avec lui, mais ce contact nous est pour l'instant refusé. Pourquoi nous sommes-nous lancés dans cette périlleuse entreprise ? Le 14 octobre 2021, son groupe a obtenu la condamnation de deux de nos camarades pour vol en réunion. Pour ces faits, il et elle doivent désormais verser 38 000 euros de dommages et intérêts au groupe Carrefour. Nous ne laisserons pas nos camarades verser un centime à cette multinationale. Carrefour doit renoncer à cette somme et retirer sa plainte. Vol en réunion, voilà leur version et celle de la justice. Voici la nôtre. Le 30 janvier 2021, après plusieurs mois de confinement, couvre-feu et autres restrictions, nous étions une soixantaine à avoir mené une autoréduction au Carrefour Market de la rue Nationale à Paris. Riz, pâtes, huile, lait bio, couches de qualité pour bébés, serviettes hygiéniques. Des chariots ont été remplis pour fournir des cantines et des distributions solidaires. Avec ces caddies pleins de victuailles, bien meilleurs que des boîtes de conserve premier prix, nous avons bloqué les caisses du magasin et demandé à rencontrer le patron pour obtenir son accord de partir avec tout ou partie de la marchandise. Des représentants du groupe sont venus et ont accepté de nous céder les biens considérés comme de première nécessité. La police a contrôlé deux des 60 participants et participantes à cette autoréduction et les a retrouvés. Malgré son engagement à donner ces produits, le groupe Carrefour a décidé de porter plainte. Eux y voient un vol, nous y voyons une juste réappropriation en contrepartie des bénéfices accumulés jalousement par la grande distribution. Nous avons presque tout tenté pour retrouver Alexandre Bompard. Nous avons tracté dans de nombreux carrefours de France à maintes reprises, occupé le siège du groupe à Massy en mars dernier. Nous nous sommes même incrustés à un gala où il était invité. Jamais nous n'avons été entendus. Si nous ne pouvons pas le rencontrer chez lui, nous avons décidé d'aller chez ses amis de l'AFEP, dans les quartiers bourgeois de l'Ouest parisien, où lui et les patrons du CAC 40 s'organisent des petits déjeuners. Mais à l'AFEP, on ne boit pas seulement du jus d'orange pressé avec Bolloré ou le patron de Total. Entre deux macarons, on réfléchit à comment agir en coulisses pour défendre les intérêts de ceux qui ont déjà tout. La fin de l'ISF, le maintien du crédit d'impôt recherche, la non-taxation des jets privés ou des super-profits. Et Carrefour a pleinement profité de ces manigances. Nous ne pouvons pas laisser ce monstre de la grande distribution réclamer 38 000 euros à nos camarades, alors qu'il fait 1 milliard de bénéfices en 2021. Le modèle de Carrefour bâti par Bompard consomme la forêt amazonienne, selon le rapport d'une ONG. Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, partenaire de toujours plus de gentrification, bétonisation et technosurveillance de notre monde. Leurs profits creusent notre tombe. Quand nous subissons l'inflation, c'est la rémunération des patrons du CAC 40 qui explose. Elle a bondi de 52% en 2021, un record historique selon le rapport annuel de Proxinvest publié le 22 novembre. Il est temps de perturber ces espaces où les puissants se sentent depuis bien trop longtemps à l'aise. Nous ne paierons pas. Carrefour, retire ta plainte.
Est-ce qu'on a des annonces à faire en soutien à...
Eh ben, on a entendu qu'il y avait un collectif qui s'était créé à Lyon, qui s'appelle Inflaction, et qui commence à se mobiliser apparemment contre la hausse de la vie chère, contre la hausse des prix dans les différents secteurs, et qui peut-être se retrouverait vers gratte-ciel jeudi vers 16h.
Voilà, il y aura aussi on vous en reparlera, une soirée de soutien pour les personnes là, qui subissent la répression dont on vient de vous parler.
Alors, on a bien parlé de la métropole, mais on part maintenant dans les colonies de l'Empire français.
Ouais, décidément, la France coloniale, répressive et raciste a de beaux jours devant elle. Les nouvelles annonces de Darmanin concernant le déblocage d'un budget militaire, militaire, spécialement dédié à Mayotte et à la Guyane, ces derniers jours.
C'était la Guyane. Mignon.
Voilà, font peur. Depuis plusieurs années, Mayotte comme la Guyane, c'est-à-dire les deux territoires les plus pauvres des colonies françaises, puisqu'il faut bien appeler un chat, subissent une répression systématique et brutale dès que la population se soulève. Et ces soulèvements sont nombreux et de plus en plus fréquents ces dernières années. Alors à Mayotte, par exemple, pour justifier un petit peu ces soulèvements, hein, sachez que 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Soyez sûr que ce ne sont pas les colons blancs français métropolitains qui sont pauvres, ce sont les Comoriens, Comoriennes, Mahorais, Mahoraises. En Guyane comme à Mayotte, la ségrégation raciste et sociale est partout. Les services publics, notamment en ce qui concerne la santé, sont par endroits inexistants. Idem pour les transports en commun et même pour les écoles. Quant aux bidonvilles, surtout à Mayotte, c'est l'explosion absolue. Or, la politique de la France ces derniers mois et ces dernières années, mais encore plus ces derniers mois, c'est le durcissement du droit du sol. C'est l'enfermement systématique dans les centres de rétention administratifs, y compris pour les mineurs étrangers. C'est, on en avait déjà parlé, l'envoi du RAID à Mayotte encore depuis le 21 novembre pour mater la jeunesse mahoraise et comorienne qui sombre dans toujours plus de violence. Pour ça, on peut encore remercier Gérald Darmanin et le ministre des Outre-mer, l'ancien préfet de la région Île-de-France, Jean-François Carenco. Le départ du RAID a eu lieu aujourd'hui. Alors, en guise d'au revoir et à plusieurs reprises cette semaine, le RAID s'est fait largement caillasser. On ne leur reproche pas de s'être fait caillasser. Cette nouvelle déclaration de Darmanin à l'Assemblée nationale ces jours-ci n'a rien d'étonnant. Les députés d'outre-mer proches du gouvernement font de la surenchère systématique, telle Estelle Youssoufa, députée de Mayotte. Alors, je la cite, par exemple, hein, elle a dit « À Mayotte, chaque jour, nos enfants vont à l'école la peur au ventre. Les automobilistes sont agressés par des hordes de jeunes démons. » No comment. Quant à la nouvelle annonce de Darmanin sur le déblocage d'un budget militaire spécial Mayotte et Guyane, eh ben, ça fait bien flipper. Et puis, on va vous mettre une petite musique. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Médine. Ça s'appelle
La puissance du port du Havre. Un petit hommage aux dockers du côté de la Normandie.
Yes.
Junior à la poids des amis. Il peut y avoir qu'une seule beba dans la city d'Edouard Philippe. Comme y'aura qu'un seul doudou, c'est mon daron, pas le maire ni le ministre. On participe pas à leur victoire, on va s'asseoir dans le jury. Je te souhaite la bienvenue au Havre, autrefois appelé Francisco Police. On m'a circoncié dans un immeuble, enterré mon prépuce sous l'herbe. Je croyais que Michael Jackson dans Billy parlait de mon Cléon Bilel. Puis j'ai appris que j'étais coloré, que les Havrais n'avaient pas collaboré, que le bédo transitait par les douaniers et que le bédo CB c'était Bolloré. Océane, Viking, je me garde en trois tailles sur le parking. Les skins sont partis, on les a chassés dans les 90s. Ici on aime tellement pas les balances qu'on veut pas être témoin de mariage. Leur ville est faite en faïence, c'est la ville du Havre faite en marbre.
Ma ville et moi en vrai on est les mêmes. On s'est fait bombarder pendant la guerre. On est pris pour les plus laids dans la presse. On vit entre le béton et la mer. Entre le patrimoine et les quartiers délabrés. Mon cul est international, mais mon petit cœur est havré.
La puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre. C'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave. La puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre. C'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave.
La puissance, la puissance. La puissance du port du Havre. La puissance, la puissance. La puissance du port du Havre. La puissance, la puissance. La puissance du port du Havre. La puissance, la puissance. La puissance du port du Havre.
Alphonse Mendy, c'est pas Alphonse Brand. Je te monte en l'air, grosse mise à l'amende. Sur le blason, c'est la salamande. Rien à foutre que le dessin judiciaire me ressemble. De toute façon, je reconnais pas l'infraction. Sur le PV, je signerai un autre nom. Si tu joues les gros poissons ici, tu vas finir par devenir de la nourriture à poisson. Quartier, en deuil. On a perdu un rider. Docker, dans le fleuve. C'est la saison de The Wire. Et les rodéos de Baltimore. J'aime quand les vagues frappent l'Atlantique Nord. On reçoit la coque sous blister. Belle et que les SP collent pas de traceur.
Ma ville et moi en vrai on est les mêmes. On s'est fait bombarder pendant la guerre. On est pris pour les plus laids dans la presse. On vit entre le béton et la mer. Entre le patrimoine et les quartiers délabrés. Mon cul est international, mais mon petit cœur est havré.
La puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre. C'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave. La puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre. C'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave.
La puissance, la puissance. La puissance du port du Havre. La puissance,
la puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi 5 décembre. On vient d'écouter Médine, la puissance du port du Havre, et on passe tout de suite à la rubrique
locale.
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 Et au local, on a une métropole de casseurs, mais une métropole qui casse les grèves.
On vous en a déjà beaucoup parlé, hein. Les 22 agents et agentes de nettoyage de la gare de Perrache sont en grève actuellement et aujourd'hui depuis 8 semaines. Et c'est pas rien contre la métropole de Bruno Bernard et d'Europe Écologie Les Verts pour garder leur emploi. Cette métropole qui les condamne au chômage à partir de janvier, cette même métropole qui refuse de les recevoir depuis le début du conflit, qui refuse d'entendre les revendications. Eh bien, cette même métropole, soi-disant de gauche, en tout cas élue, sur des revendications de gauche, au moins social-démocrate à minima, eh bien, a aussi décidé de briser la grève comme n'importe quel salopard de patron en envoyant une société de ménage pour remplacer les agents et agentes du nettoyage en grève et pour que le ménage soit fait. C'est tout simplement hallucinant et profondément scandaleux. Ces verts libéraux de droite se croient visiblement tout permis dans le seul but de préserver, ils l'assument, le tourisme lyonnais pour la fête des Lumières et les fêtes de Noël. Alors, face à la brutalité des méthodes des verts de Bruno Bernard de la métropole, les grévistes et leurs très nombreux soutiens appellent un rassemblement à 18h le 7 décembre, donc c'est après-demain, au terreau, en inauguration de la fête des Lumières. On en reparlera à l'agenda, mais venez-y nombreux et nombreuses. En tout cas, nous, on y sera pour soutenir ces très courageux et courageuses agents et agentes du nettoyage en grève de la gare de Perrache depuis 8 semaines.
Et on reste dans le secteur social avec notamment un petit reportage sur...
Oui, c'est un reportage sur la manifestation de mardi dernier, le 29 novembre. C'était la mobilisation des salariés du secteur social et médico-social et médical.
Nicolas Barnaud, je suis moniteur éducateur donc à la sauvegarde 69, délégué syndical sur la sauvegarde 69 et également membre du bureau de l'USD Santé Action Sociale CGT du Rhône.
C'est une mobilisation du secteur social, médico-social, en vue entre autres la question qui était mise en tête, c'est les 183 pour tous, puisqu'on a encore des camarades de nos établissements qui n'en bénéficient pas, les plus qui ne sont pas censés être en lien, selon nos employeurs, directement en lien avec le public accueilli, mais également les revendications, elles portaient sur de vraies revalorisations de salaire de notre secteur, et la revendication qu'on portait, c'était au moins 600 euros brut pour l'ensemble des personnels. Ce qui couvrirait à peu près la perte de pouvoir d'achat des travailleurs de notre secteur sur les 25 dernières années. Mais les revendications tournent aussi, pas que autour du salaire, mais c'est surtout des moyens supplémentaires en termes de personnel pour assurer les missions de qualité d'accompagnement de notre public. La question des moyens, c'est des choix politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'AG, c'est des choix politiques. Si on ne veut pas mettre de l'argent actuellement au niveau du social et du médico-social, c'est parce que les choix politiques sont faits de ne pas le mettre. Je préfère, je donnais l'exemple tout à l'heure, faire des cadeaux aux patrons à travers les exonérations de cotisations patronales, les patrons du CAC 40 qui s'en mettent plein les fouilles à l'heure actuelle. Cet argent-là, il pourra aller dans les poches d'une part des salariés, mais surtout d'un grand service de qualité qui répondrait aux problématiques de la population au niveau du social, du médico-social.
Alors moi je suis déléguée syndicale CGT à la CAF du Rhône. Alors nous on n'est pas payé à l'acte comme ça peut être dans certains établissements médico-sociaux là maintenant avec la tarification Séraphin PH, mais ça ressemble un peu à ça. Il est mis en place un espèce de chronométrage quand même de nos activités, On nous a mesuré le temps qu'on devait passer sur un accompagnement d'une personne, le nombre de visites à domicile qu'on devait faire, le temps de suivi que ça devait prendre, etc. Donc ça, normalement, c'est travail social, ça marche pas comme ça, quoi. C'est-à-dire, ce qui se passe dans une relation, ça peut pas se matérialiser. C'est pas, on reçoit quelqu'un, à la sortie, il sort un robot, quoi. Enfin, on n'a pas fabriqué une machine ou des boulons. Et du coup, pour tous les technocrates qui nous gouvernent actuellement, c'est inenvisageable, ça. Il faut que tout soit mesuré. Et c'est ce qui fait perdre un peu notre âme, quoi, par rapport au travail et au sens du travail qu'on peut lui donner. Voilà.
À cette société qui détruit l'hôpital, hey! Non, non, assez! À cette société qui détruit l'hôpital, hey!
Non, non, assez! Tout à l'heure, t'as parlé du fait que c'est des métiers très féminisés. Du coup, finalement, c'est une lutte féministe, la lutte des travailleurs du social.
Comme tout le milieu soignant et le milieu des métiers, ce qu'on appelle les métiers du lien, donc aide à domicile, auxiliaire de vie, même l'éducation, l'enseignement. Mais oui, le social aussi, particulièrement, c'est un métier très féminisé. Et c'est vrai que ça fait partie des métiers qui sont dévalorisés, aussi bien sur le plan... des compétences qui sont mises en œuvre, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent on considère en fait que c'est des qualités féminines innées, que sont l'écoute, l'empathie, la bienveillance, la gentillesse, etc. La douceur, et puis prendre soin de l'autre. Et qu'on ne reconnaît pas que c'est aussi des choses qui s'apprennent, que ce sont des techniques à apprendre. Ce sont des métiers très pénibles, émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'on absorbe tout ce que les gens ils nous transmettent de leur désarroi ou de leur détresse. Alors, on n'absorbe pas au sens propre. C'est-à-dire qu'heureusement qu'on a appris des techniques pour prendre du recul et relativiser ce qui est dit. Mais c'est quand même un métier difficile émotionnellement. Et ça, c'est pas reconnu, c'est pas pris en compte dans le sens où on considère qu'on sait gérer ça, quoi, que c'est pas quelque chose qui s'apprend, alors que si, ça s'apprend.
Moi, je suis Laurent Moreno, donc je suis secrétaire départemental Sud Santé Sociaux, mais je suis aussi négociateur national sur la table des négociations autour de la branche, donc la convention 66-51. CHRS et Croix-Rouge, mais je suis aussi négociateur au niveau de la 66 et CHRS. Si aujourd'hui il y a une mobilisation, c'est à l'appel du collectif des travailleurs sociaux en lutte d'Île-de-France pour remobiliser les gens, parce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui sont exclus de 183 euros. Le Ségur, ça concerne le public, l'hôpital public, nous dans notre secteur privé, c'est ce qu'on appelle la forcade. C'est ce qu'ils appellent une indemnité métier socio-éducatif qui n'est pas inclus dans le salaire de base. Donc c'est une ligne supplémentaire qu'on a sur la fiche de paye, qui demain peut éventuellement disparaître.
Du coup, actuellement, c'est qui les travailleurs exclus de la forcade ?
Alors, c'est tout le personnel administratif, le personnel des services généraux, donc ceux qui sont à l'entretien des bâtiments. En gros, ça représente, dans notre secteur, ça représente encore un tiers des salariés sur 900 000 salariés qui sont exclus. Et comme c'est les plus bas salaires, c'est compliqué pour eux. Il y a aussi la question des salaires avec l'inflation. On a des salaires qui stagnent. Hein. J'en veux pour preuve la décision unilatérale qu'a prise l'EXEM d'augmenter les coefficients et d'augmenter la valeur du point. Sinon, on avait, il me semble que c'est plus de 20 métiers qui étaient en dessous du SMIC au jour d'aujourd'hui.
L'égalité n'est pas un métier éducatrice. La précarité n'est pas un métier éducateur. Mobilisé.
On a bien vu qu'on avait moins de gens qui se sont portés grévistes et qui ont manifesté dans la rue. Pour autant, on ne va pas lâcher, on va continuer, parce qu'il y a toujours le projet de convention collective unique qui est sur la table, et on sait pertinemment qu'il va se faire dans le cadre d'une enveloppe restreinte, c'est-à-dire à coût constant, et c'est là qu'ils vont continuer à jouer sur nos salaires. Nous, on ne l'appelle pas convention collective unique étendue, ça c'est le langage patronal. Nous, on l'appelle convention collective commune de haut niveau. Alors pourquoi de haut niveau ? Parce que nous, on demande à ce que le meilleur de chaque convention soit pris pour être mis dans cette convention collective commune. Et ensuite, étendu, on veut l'étendre parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas couverts dans notre secteur par une convention.
Vous, ce que vous demandez, c'est une convention unique de haut niveau et qui soit obligatoire pour tous les employeurs du secteur.
Exactement, avec un salaire d'entrée à 1700 euros net pour le plus bas salaire. Et ensuite, une évolution de grille, alors pas en pourcentage, mais en forfait, en nombre forfaitaire. Parce que si on l'applique en pourcentage, cette progression de salaire, obligatoirement, on va augmenter les écarts entre les hauts salaires et les bas salaires. Alors si on l'applique en forfait, on va les réduire en pourcentage.
Vous avez posé comme préalable au début des négociations le fait que la prime Ségur soit étendue à tous les travailleurs.
Nous, au niveau de Sudefo CGT, c'est un préalable qu'on a eu dès le début d'entrer en négociation, en soi-disant négociation, soit convention collective unique étendue telle que l'appellent les patrons. Et là, la CFDT nous a rejoints il y a à peu près un mois et demi. Donc on est les quatre organisations syndicales à avoir demandé qu'il y ait ce premier préalable, 183 € pour tous les salariés du secteur. Le deuxième préalable, c'est 3000% d'augmentation, comme dans la fonction publique.
Peut-être tu peux répéter ce qui a été décidé par l'AG qui a eu à la fin de la manif d'aujourd'hui.
Je crois qu'il y a deux propositions qui avaient été soumises au vote. La première, c'est qu'il y ait une nouvelle assemblée générale au mois de janvier. Et la deuxième, c'est qu'on puisse organiser des manifestations pour aller dans les réunions organisées par les organisations patronales, FEAP et NEXEM, pour s'inviter à ces deux réunions et faire savoir la colère du secteur.
Vous l'avez entendu, donc la mobilisation faiblit dans le secteur social et médical, donc notamment dans le secteur du social qui s'était bien mobilisé ces deux dernières années, mais qui s'est laissé diviser un peu par cette augmentation de salaire de 183 € qui est attribuée aux seuls travailleurs sociaux diplômés. Mais il y a quand même encore un appel des Rencontres nationales du travail social en lutte à monter à Paris le 2 février pour une grosse journée de mobilisation. Et à Lyon, comme vous l'avez entendu à la fin du reportage, sûrement des rendez-vous à venir pour s'inviter aux petites sauteries de NEXEM et autres syndicats de patrons du social quand ils vont commencer à discuter de cette fameuse convention unique. On reste donc branchés sur ces infos.
Et maintenant, pour notre dernière partie de l'émission, on passe à un interview. On va revenir sur la situation et les manifestations qui durent maintenant depuis plus d'une semaine en Chine avec deux invités. On a Zoé, du coup, qui est chinoise en France en ce moment, qui suit de près ce qui se passe là-bas, qui est impliquée aussi dans les rassemblements de soutien en France, et avec Agathe, qui est soutien du mouvement et qui va un peu guider cette discussion.
Merci. Et ben, pour commencer, Zoé, si tu veux bien, nous présenter un peu ce qui se passe en ce moment, les manifs du week-end dernier, du coup le week-end du 26-27 novembre.
Oui, bonsoir, déjà merci pour l'invitation. Ce qui s'est passé le week-end dernier en Chine, c'était des manifestations massives dans plusieurs villes chinoises, d'abord à Shanghai, mais aussi dans d'autres villes comme Wuhan, à Pékin, à Guangzhou, des milliers de Chinois qui sont descendus dans la rue. Ça a commencé à être déclenché par une incendie qui a eu lieu à Urumqi, le chef-lieu de la province de Xinjiang, qui a causé une quarantaine de morts. Les Chinois, une fois appris cette nouvelle, ont été très en colère parce que les pompiers n'ont pu accéder au lieu seulement 3 heures après le début de l'incendie parce que l'ensemble du quartier de résidence a été bloqué en raison des mesures de confinement depuis plus de 3 mois. Et voilà, les Chinois, sachant que depuis à partir du printemps 2022, il y avait des mesures de confinement qui ont toujours été en place, des tests PCR très réguliers, etc., qui ont vraiment perturbé, voire vraiment détruit, on va dire, l'économie chinoise. Donc il y avait, par exemple, le taux de chômage parmi des jeunes diplômés qui est monté à 20%, ce qui est énorme. Et donc les Chinois ont vraiment ras-le-bol de ces mesures zéro Covid, comme l'appelle le gouvernement chinois. Et donc cet incendie a été un déclencheur qui a fait que plein de jeunes Chinois, surtout des étudiants, des jeunes actives, mais aussi des lycéens, qui sont descendus dans la rue. À Shanghai, au départ, c'était le soir du 26 novembre. Les gens se sont rassemblés pour une veillée pour commémorer les victimes de l'incendie, mais tout de suite, ça a évolué vers une vraie manifestation dans laquelle les gens ont même réclamé la démission du président Xi Jinping et la fin de la dictature du Parti communiste chinois.
Et ça, quand on en parlait avant, tu disais que toi, ça t'étonnait beaucoup et que ça étonnait un peu tout le monde, qu'en fait, ces slogans-là, ils sont apparus un peu...
Oui, c'est ça. En fait, presque personne n'a vu ça venir, parce que c'est le fait de les cibler directement Xi Jinping et le Parti communiste, c'est même... pour une population qui est la population chinoise qui vit en fait perpétuellement sous la censure, la surveillance globale, la surveillance numérique, les gens n'osent vraiment pas parler, et c'est vraiment un phénomène inouï. Depuis 1949, l'affaire de Tiananmen, en 1989, les... le massacre Tiananmen, à ce moment-là, les manifestants n'ont pas réclamé la démission du président ni la fin du Parti communiste. Donc c'est vraiment très étonnant.
Ouais. Ok. Et du coup, on en a un petit peu parlé, mais donc de ce qui se passe et au niveau de la répression, enfin, qu'est-ce qui s'est passé une fois que les gens sont sortis? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le gouvernement a réagi à ça?
Bien sûr, il y a eu des arrestations massives et vraiment, on dit sans distinction, ce soir-là. Et le lendemain, donc le dimanche 27, il y avait quand même beaucoup de gens qui se sont réunis, mais vraiment de façon spontanée, sur le lieu là où il y a eu les manifestations la veille. Et là aussi, la police a procédé à des arrestations massives. Et puis depuis, en fait, déjà lundi et mardi, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux des informations comme quoi les polices étaient en train de contrôler les téléphones des gens qui passaient vraiment dans la rue de façon aléatoire, là où il y a le plus grand... là où les gens passent le plus souvent, et ils arrêtent les gens, ils contrôlent leur téléphone pour vérifier s'ils n'avaient pas de VPN sur leur téléphone, ou des applications comme Telegram, Instagram ou Twitter.
Ouais. Voilà. Peut-être juste dire ce que c'est le VPN, s'il y a des gens qui ne savent pas.
Le VPN, c'est, comme vous le savez, il y a une grande muraille de censure en Chine qui fait qu'on ne peut pas accéder à des applications qu'on utilise tous les jours ici. Il y a des gens qui... Maintenant, il faut payer pour avoir un VPN pour contourner cette grande muraille, comme on appelle. Et puis voilà, avant il y avait des VPN gratuits, mais avec le contrôle qui se renforce depuis ces dernières années, les personnes qui ont créé ces VPN gratuits se font arrêter, et maintenant il faut payer, donc c'est de plus en plus difficile à retrouver.
Et par rapport un peu au slogan, au nom des manifestations, là on l'a vu samedi dernier à Lyon, il y a le mot révolution A4, et du coup ça, tu peux nous expliquer, c'est par rapport à quoi?
Oui, la révolution A4, ça fait référence à, en fait, le fait que les manifestants en Chine, ce week-end-là, ils ont tenu des feuilles blanches A4, du coup, sur lesquelles il n'y avait rien écrit. C'est un symbole pour dire que même si qu'on ne peut plus rien exprimer sur Internet, on est muselé, on ne peut plus rien dire, le fait juste de tenir une feuille blanche, tout le monde, enfin, quelqu'un qui... en Chine, tout le monde sait ce qui se passe. Quand ils voient une page blanche comme ça, ils savent ce qu'on veut dire, ce qu'on veut exprimer. Voilà, donc c'est une façon symbolique pour contester la censure.
C'est comme ce que tu disais, je crois, qu'au début, quand il y avait les manifestations, les gens disaient sur les réseaux sociaux « j'y suis allée », mais ils ne disaient pas où ils étaient allés, mais en fait, tout le monde comprenait que c'était ça, quoi.
Ouais, c'est une référence vraiment...
C'est des manières un peu de contourner la censure, du coup, en fait, en disant rien, mais du coup, tout le monde comprend ce qu'on est en train de dire.
C'est ça, c'est intéressant ce que tu évoques, parce que on parle beaucoup de la censure, la surveillance en Chine, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens, sous cette censure-là, ils ont énormément de créativité, avec le caractère chinois, avec plein de façons de contourner la censure et faire passer le message.
Ouais, et du coup, ça ramène à la prochaine question, c'est... Les luttes, elles ont toujours existé en Chine. Et du coup, il y a aussi, en fait, il y a eu des manifestations aussi avant. Et du coup, toi, voilà, c'est quoi le lien que tu fais entre ce qui s'est passé un peu avant et, ouais. et maintenant
Ouais, en fait, déjà en octobre, avant l'ouverture du congrès, du 20e congrès du Parti communiste, il y avait un homme à Pékin qui a déployé des banderoles sur un pont, des banderoles pro-démocratiques, réclamant aussi la démission de Xi Jinping. Et ces images, bien sûr, ont été très vite censurées, mais ont beaucoup circulé, surtout en dehors de la Chine. Donc il y avait déjà plusieurs campagnes de mobilisation, principalement par des organisées par des étudiants, par des collages d'affiches dans la rue ou sur le campus pour réclamer la fin de la dictature. Et mais même moi j'ai participé, et c'était il y a plus d'un mois. Même à ce moment-là, je m'attendais pas à ce que la campagne soit, enfin, à ce que les Chinois en Chine se mobiliseraient un mois après. Et puis une autre chose à évoquer, c'est que aussi le mois dernier, en fait, en Chine, il y avait des ouvriers de l'usine de Foxconn. Foxconn, c'est la plus grande usine là où ils fabriquent des
smartphones,
des téléphones,
enfin, des puces pour les smartphones,
iPhone en fait.
Ouais.
Et les ouvriers, en fait, ils réclamaient leur salaire non payé. C'est vraiment un très très grand site de production. Un chiffre que j'ai vu tout à l'heure, c'était il y avait plus de 200 000 ouvriers recrutés sur ce site de production, donc c'est vraiment énorme. Et là, les ouvriers aussi ont révolté. Et ça a duré plusieurs semaines. Sauf que, en fait, cette affaire-là, j'ai pas. Enfin, on dirait que ça n'a pas suscité autant de visibilité en Chine même que des manifestations qui ont eu lieu en ville plus tard.
Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, on en discutait en préparant l'émission, mais il y a un site internet qui s'appelle China Labor Bulletin, du coup en anglais. Bulletin, ça s'écrit comme bulletin en français. Et là-bas, il y a une cartographie et il y a toutes les manifestations et les grèves dans les usines notamment. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est depuis des années, bah, comme disait Zoé, c'est depuis toujours, en fait, il y a ces grèves qui existent dans les usines, ces mouvements sociaux qui sont ni relayés, pas trop du coup en Chine, ni à l'étranger. Mais du coup, il y a vraiment toujours ces grèves et ces mouvements sociaux. Vous pouvez aller voir sur la cartographie du site. C'est assez intéressant, quoi. Et par rapport à une de mes dernières questions, le positionnement des manifestants par rapport à Hong Kong, Taïwan, les Ouïghours, enfin, t'as l'impression que c'est quoi plutôt comme positionnement ?
Merci pour la question, ça c'est très intéressant. Effectivement, les positionnements des jeunes manifestants chinois sont, j'ai l'impression, c'est assez partagé. Enfin, il y a plein de cas de figure. Même parmi les Chinois, les jeunes Chinois à l'étranger, je veux dire, tu as des gens qui, comment dire, moi personnellement, je dirais, ce sont des gens qui voient le cœur du problème, vraiment le cœur du mal, c'est la dictature, c'est l'oppression sous toutes ses formes, en fait, des personnes minoritaires, des Ouïghours, des Tibétains, des Hongkongais, aussi l'ambition du gouvernement chinois d'envahir Taïwan, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, on va dire, plus récemment sensibilisées à ces, comment dire, plus récemment politisées et qui partent de leur expérience personnelle, ceux qui vivent, enfin, leur famille vivent en Chine, pour réclamer, enfin, j'allais dire réclamer juste, mais c'est pas forcément une reproche, mais c'est juste chacun a ses positionnements, son point de vue différent, qui sont contre les mesures zéro Covid, mais qui sont pas forcément contre tout ce que le Parti communiste a fait à Xinjiang, à Hong Kong, ou bien qui vont réclamer aussi l'unification entre guillemets de la Chine, en parlant de entre guillemets la récupération de Taïwan. Ça c'est vraiment des points de vue quand même assez répandus parmi les Chinois, même parmi les Chinois à l'étranger. Donc voilà, ce qu'on pouvait voir sur les lieux de manifestation en dehors de la Chine, c'était aussi cette divergence de position. Les gens ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et voilà. Après, je pense que c'est normal dans le sens où on voit une émergence, un début d'une lutte. Enfin, j'espère que cette lutte, elle va pouvoir continuer. Donc, ce qui est important, c'est de trouver des points en commun, en fait, de se dire déjà, on se mobilise et il faut trouver un socle en commun pour que les gens ne se restent inclusifs, en fait, en termes des points de vue des uns et des autres.
Et moi, je me demandais sur les soutiens justement internationaux, est-ce qu'il y a en France notamment des rassemblements qui ont déjà eu lieu, vous avez évoqué tout à l'heure? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus ou...
Oui. Alors, en France, à Paris, surtout, il y a eu deux rassemblements de commémoration. Il y en a un qui a eu lieu ce samedi, qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Et sinon, à Lyon, il y a un rassemblement prévu pour samedi, le 10 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. Voilà, mettons, les horaires ne sont pas encore fixés.
On mettra sur les Lyon quand on aura les horaires. On mettra aussi avec une brochure qui a été faite en français, qui reprend les revendications et qui reprend un peu l'explication du contexte. On va la mettre sur les Lyon aussi avec l'annonce du rassemblement de samedi. Et il y avait aussi un rassemblement du coup samedi, il y a deux jours aussi, à Lyon.
Oui, c'était ça. Mais c'était une sorte de commémoration parce que les gens aussi avaient un peu peur que, que ce soit trop entre guillemets extrême. Donc ils ont voulu y aller doucement.
Et moi, les derniers trucs aussi dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être que justement en France, même si là du coup il y a un début de mobilisation aussi où il y a des soutiens français qui viennent, on se disait aussi que souvent on a l'impression que dans les réseaux militants français, enfin moi en tout cas j'ai cette impression-là, qu'il y a des fois un manque d'informations sur ce qui peut se passer en Chine en termes de mouvements sociaux, de grèves, etc. Et que souvent j'ai l'impression que, par exemple quand il y a des choses qui se passent au Soudan, en Syrie, etc., dans les milieux militants français, il y a un peu plus d'informations, il y a plus de contexte peut-être qui fait qu'il y a plus de liens qui se font et que du coup je me disais que là c'est l'occasion peut-être aussi de s'interroger sur ce manque d'informations là qu'il peut y avoir vis-à-vis des mouvements sociaux en Chine et de se rencontrer et de faire des choses
tout à fait.
Ouais. Et est-ce que du coup oui, donc le rassemblement de samedi, et pour suivre les infos du coup on a parlé du China Labour Bulletin Team.
Et, ouais. Il y a aussi un compte Instagram. En fait, ces manifestations à l'étranger se sont surtout organisées autour de quelques comptes Instagram qui répertorient les informations, qui relaient des vidéos, des images, tout ça. Donc, si vous voulez, il y a un compte Instagram en anglais que vous pouvez suivre qui s'appelle WhatsApp Beijing, WhatsApp comme en anglais, puis pas Beijing. Qui relaie beaucoup ces informations sur les manifestations en Chine.
Et merci d'être venu, d'avoir parlé de la situation.
Merci à vous.
Nous, avant de clore l'émission, on a peut-être un agenda de la semaine à vous proposer.
Oui, on vous rappelle déjà qu'il y a une réquisition qui a eu lieu samedi d'un logement, d'une maison au 110 avenue Berthelot à Lyon 7e. Et que tout le monde est invité à y passer et à y apporter du matériel. Et donc, il y a une liste de dons disponible sur le compte Facebook du DAL 69. Comme autre événement de la semaine organisé pour la lutte pour le logement et l'hébergement, il y a plein d'événements organisés dans des écoles occupées à Lyon, donc notamment... vente de lumignon mardi 6 décembre à partir de 17h à l'école des Tables Claudiennes à Lyon 1er. Pareil à l'école Lucie Aubrac à Lyon 2e. Un goûter solidaire mercredi à partir de 17h à l'école de la Nigritelle Noire à Villeurbanne. Une vente de gâteaux jeudi 8 décembre à partir de 17h à l'école Jean Giono à Lyon 8e. à l'école Berthelot à Lyon 7e aussi jeudi en fin d'après-midi, et un rassemblement à 18h jeudi 8 décembre devant l'hôtel de ville de Villeurbanne. Et encore des goûters solidaires vendredi. Donc finalement, c'est mardi, mercredi,
on
jeudi
fait des goûters.
Et vendredi
eh ouais,
dans toutes les écoles. Vous pouvez trouver ça sur Rébellion. C'est donc à l'occasion de la fête des Lumières pour faire la lumière sur les 281 enfants sans toit dans la métropole lyonnaise. Il y a 18 établissements scolaires occupés. Et à l'agenda toujours, on a déjà parlé du rassemblement mercredi 7 décembre, place des Terreaux, en soutien aux grévistes.
Et contre la métropole qui brise leur grève, hein, n'hésitez pas vraiment à venir, je pense qu'ils ont besoin de soutien. On pense qu'ils ont besoin de soutien, vraiment.
Et donc on rappelle que c'est à 18h, place des Terreaux, mercredi 7 décembre. Et puis il y aura aussi une petite cantine et projection vendredi 9 décembre à 21h au nouveau squat Le Casse-Dalle. Et pour finir, le lancement d'un collectif de livreurs lyonnais en présence d'un livreur Uber Eats en lutte à Paris le dimanche 11 décembre à 14h30 à l'annexe 27 rue Salomon-Rénac dans le 7e. C'est une réunion publique organisée notamment par la CNTSO pour revendiquer et gagner de nouveaux droits pour les livreurs et livreuses.